que maintenant j'adore mon quotidien, c'est trop bizarre à dire comme ça, mais j'adore chaque jour, je sais jamais ce qui va m'arriver, je sais jamais les rencontres que je vais faire, je sais jamais dans quel quotidien je vais arriver. Et donc c'est un peu bizarre parce que finalement, c'est même plus spécialement des attentes vis-à-vis du pays, je crois.
Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien.
Alors aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qu'on ne présente plus en soirée ou en festival à Paris, on m'en parle, à la pharmacie à Angers, on m'en parle, dans un bateau à La Rochelle, on m'en parle. Aujourd'hui, j'accueille Juliette Hamon, plus connue sous le nom de La Bretonne en stop. Alors une anecdote marrante, c'est que je parlais récemment avec quelqu'un qui démarre un tour du monde en stop. Elle ne connaissait pas Ludovic Hubler, le maître Jedi du stop, que j'ai reçu dans ce podcast. Mais c'est Juliette qui l'a inspiré, comme quoi les Padawans prennent le relais. Bref, Juliette, 26 ans, partie en février 2023 en tour du monde en stop. Rien que ça, son caramel au beurre salé dans son sac. En un an, elle a déjà rejoint l'Inde, puis le Népal, puis l'Inde, puis le Népal, puis l'Inde, puis le Népal. Et en fait, je comprends pas où elle est, j'ai du mal à suivre. Et c'est pour ça que je l'ai invitée, pour lui poser mes questions et comprendre où elle en est, quoi. Juliette, bonjour.
Salut Béranger.
Alors avant de revenir sur ton parcours, je voulais savoir c'est quoi ta vie, c'est quoi ton quotidien, t'as un agenda de ministre, tu faisais une retraite silencieuse, avant t'étais au ministère de l'environnement du Pakistan, tu vas faire des conférences, t'étais dans une ONG en Allemagne, aujourd'hui tu fais du stop mais peut-être tu fais pas du stop, du coup ça dépend, peut-être on peut s'appeler, c'est pas un tour du monde en stop que tu fais, c'est une campagne présidentielle, raconte-nous ton quotidien.
Alors c'est hyper difficile de raconter mon quotidien parce que justement tous les jours sont hyper différents, mais actuellement là tout de suite mon quotidien, je sors du Holi Festival en Inde à Varanasi, donc c'est là, je suis totalement HS parce que c'était une grande fête qui a lieu dans toute l'Inde pendant une semaine. Mais sinon, mon quotidien, c'est quoi? Mon quotidien, c'est d'avancer en stop, de pas trop savoir justement comment vont se passer mes journées, de rencontrer du monde et de me laisser porter. Je pense que ça serait la meilleure explication. Mais actuellement, je suis en Inde. Si t'es perdu, je suis en Inde.
Là, t'es en Inde. Et quand tu dis avancer en stop, c'était 3 jours par semaine ou c'est parfois pendant un mois sans pause? Où tu fais souvent des pauses pour rencontrer du monde et des associations, des ONG.
Il n'y a pas trop de programme établi, pour être honnête. Ce qui guide mon itinéraire, c'est principalement les visas. Si je sais que mon visa va se terminer, dans ces cas-là, je dois accélérer un petit peu. Ou des fois, j'ai un peu en tête que, par exemple, dans certains pays, je vais avoir un visa d'un mois. Donc, dans ces cas-là, je le prends en compte. Sinon, c'est vraiment au gré des rencontres. Si je me sens bien dans un endroit, j'y reste plus longtemps. Je fais aussi attention à m'écouter au niveau de la fatigue, donc j'essaie de pas avancer trop vite. Si je peux ne pas avancer trop vite, je vais rester minimum 3 jours dans les endroits où je vais, grand minimum, parce que ouais, j'aime bien aussi rencontrer du monde sur place, avoir le temps, pas être toujours dans la course. Et je pense que vu que j'ai pour projet de le faire pendant longtemps, je pense que ça serait pas non plus durable. Donc, généralement, je suis quand même quelques jours dans les endroits où je m'arrête, mais c'est très changeable et ça dépend beaucoup des rencontres que je fais.
Et oui, c'est un marathon, pas un sprint. Est-ce que tu peux me présenter la Juliette d'il y a un an et quelques semaines maintenant, son expérience en stop, en baroud, en coach surfing? C'est quoi tes espoirs, tes doutes avant de prendre la route, avant le jour 1?
Là, c'est une grande question. La Juliette d'il y a un an, alors déjà j'avais très peu d'expérience en stop. Je disais à tout le monde que je savais très bien ce dans quoi je me lançais, mais j'avais fait très peu de stop. J'en avais fait quelques fois quand j'étais plus petite, mais mes parents à chaque fois me disaient Juju, ne fais pas de stop, c'est trop dangereux. J'en avais refait une fois avec ma meilleure amie en France pour aller faire des treks dans la montagne. Et sinon, en fait, j'en avais pas fait. Donc, juste avant mon départ, 6 mois avant, pendant les grandes vacances, je m'étais dit, bon, Juliette, t'as décidé de partir en tour du monde en stop. Peut-être que t'as fait au moins une fois dans ta vie du stop toute seule. Donc, j'étais partie, j'avais un camp de surf au Portugal, tout au sud du Portugal, et j'étais partie de Paris à Sagres, au Portugal, en stop, pour voir si ça me plaisait, en fait, de le faire seule. Et c'était une sacrée aventure, c'était vraiment une sacrée aventure, et ça m'a un peu lancée dans ça, ça m'a confirmé aussi que je voulais vraiment partir en stop et que c'était quelque chose qui me plaisait. Mais je pense qu'en fait, là, aujourd'hui, ma vision du stop, elle a trop changé. Enfin, j'avais pas du tout cette vision il y a quelques temps, et maintenant, je me vois même plus voyager sans le stop, je crois. Donc, ça a vraiment évolué. Et pour le code surfing, j'en avais fait quand même plus. J'avais fait le tour de l'Europe en interrail, en train, avec une bonne amie aussi. Et là, on avait fait tout en code surfing pendant un mois et demi. Donc, j'avais quand même ça. Pour le coup, j'avais plus fait de code surfing, mais je m'en suis rappelé récemment. J'avais fait du code surfing en Europe, et en fait, je pense que j'avais peu fait autrement hors de l'Europe, et j'avais de l'appréhension, donc basée sur totalement des stéréotypes, je pense, mais je me souviens que je n'osais pas en faire hors de l'Europe. Donc voilà, c'était aussi une grande étape finalement, parce que maintenant c'est devenu mon quotidien. Mais du coup, je me suis lancée avec finalement peu d'expérience.
Bon, on va reparler de la Juliette d'aujourd'hui, du coup, qui a moins de peur et puis moins de doutes. Tu avais un rêve ultime, genre à jour zéro, tu avais un rêve absolu, genre, par exemple, moi qui démarre mon tour du monde en stop, mon rêve ultime, ouais, c'est arriver à Ushuaia en terre de feu et faire une randonnée au bout du monde. Est-ce que toi, t'avais quelque chose ou t'as encore un objectif qui te fait rêver?
J'avais en partant deux pays qui m'intriguaient particulièrement et que j'avais particulièrement envie d'aller. Et c'était la Mongolie et l'Inde. C'était deux pays. Je sais vraiment pas trop pourquoi, mais j'avais je voulais vraiment construire mon itinéraire et essayer au maximum d'y aller. Et c'est drôle, j'en parlais hier encore. En fait, c'est les deux pays où j'ai été le plus challengée. Enfin, j'ai autant aimé qu'ai été challengée dans ces deux pays, et pour les raisons totalement opposées. C'est-à-dire que la Mongolie, c'était parce que j'ai été particulièrement... Enfin, c'est le pays le plus où j'étais le plus seule. Enfin, il est le moins peuplé au monde par rapport à sa superficie. Et l'Inde, c'est au contraire, c'est parce que justement, il y a tellement de monde qu'il faut faire avec aussi. Donc c'était pour deux raisons différentes, mais voilà, les deux pays que j'avais le plus envie de voir et qui m'intriguaient, je pense. Je sais pas si c'est de la curiosité, mais ouais, je pense que ouais, c'est une sorte de curiosité pour ces deux pays, mais voilà, ça a pas été les plus évidents pour autant.
Et maintenant que tu les as fait, c'est fini, le voyage est fini, on rentre à la maison, ou t'as des nouveaux... Nouvelles envies, là?
Maintenant, en fait, je crois que c'est même plus spécialement des pays en particulier. Je crois que, mais progressivement, ça a vraiment disparu. En fait, j'ai juste que maintenant, j'adore mon quotidien. C'est trop bizarre à dire comme ça, mais j'adore chaque jour. Je sais jamais ce qui va m'arriver. Je sais jamais les rencontres que je vais faire. Je sais jamais, en fait, dans quel quotidien je vais arriver. Et donc, c'est un peu bizarre parce que finalement... C'est même plus spécialement des attentes vis-à-vis du pays, je crois. C'est vraiment des attentes... Je sais pas si ça pourrait, du coup, être quelque chose que je pourrais vivre en France, finalement, mais c'est... Enfin, j'adore, tu vois. Des fois, j'ai rencontré un monsieur dernièrement. Il était propriétaire d'une usine. Il m'a montré toute son usine. D'habitude, c'est vraiment... J'ai pas spécialement de curiosité. J'aurais pas eu de curiosité. Et là, je sais pas, dans le contexte, je trouvais ça tout formidable. Il m'expliquait tous les outils de l'usine et j'étais en mode, waouh, c'est trop bien, ça fonctionne comme ça. Et je sais pas, ça crée une sorte de curiosité quotidienne que j'aime trop. Donc ouais, j'ai plus spécialement d'attentes spécifiques pour le pays ou de lieux spécifiques à visiter, mais plus une curiosité globale sur quel chemin va prendre ma vie, en fait. Plus, voilà, au global.
Tu peux nous résumer ta route pour les personnes qui te connaissent pas ou qui ont aussi été sur l'Atlantique pendant 2 mois. Qu'est-ce que tu as fait cette dernière année, les pays, et puis si tu as quelques expériences ou rencontres, par exemple, je parlais d'un ministère ou d'une ONG. Tu peux nous résumer un peu ton parcours. Bon, je sais qu'en quelques minutes tu vas pas résumer un an, mais un petit peu, quoi, pour nous donner du contexte.
Déjà, juste pour dire les pays par lesquels je suis passée, donc je suis partie de Brest et j'étais en France, Allemagne, Suisse, Autriche, Slovénie, Monténégro, Croatie, Albanie, Grèce, Turquie, Géorgie, Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kazakhstan encore, Mongolie, Chine, Pakistan, Inde, Népal, et là je viens de retourner en Inde. Donc c'était un gros parcours, et j'ai passé du temps un peu partout. J'ai passé beaucoup de temps en Turquie où je me suis sentie particulièrement bien. J'ai passé aussi pas mal de temps en Mongolie et ensuite dernièrement en fait Pakistan, Inde aussi j'ai passé 3 mois avant d'aller au Népal. Et ouais, chaque pays, en fait, chaque, ça a été un peu, il y a eu des transitions au fur et à mesure de ce voyage. La première partie, donc l'Europe, où finalement c'était un peu les débuts. C'était un peu bizarre finalement pour moi. Je m'attendais à ce que ce soit un peu le début où je me sentais immédiatement bien, etc. Et en fait, non, ça, je pense que le début de l'Europe, ça sonnait plus comme moi qui essayais de comprendre un peu dans quoi je me lançais. C'était bizarre d'avoir autant de liberté. Et du coup, pendant la France et l'Allemagne, ouais, j'étais juste un peu confuse sur cette liberté. Après, la Turquie, ça a commencé à changer un petit peu dans ma manière de percevoir le voyage. J'ai rencontré beaucoup de personnes, d'artistes, beaucoup de personnes qui étaient aussi un peu dans les milieux hippies, etc. Donc beaucoup de musique de rue, beaucoup aussi de rencontres d'activistes et de militants, où du coup j'ai découvert beaucoup de réalités sur la Turquie et j'étais beaucoup inclus dans ces milieux-là. Donc c'était un moment assez fort de mon voyage. Et ensuite, bah voilà, c'est ce que je disais souvent à mes proches, et ça, ce qui les fait rire, c'est qu'en fait, j'ai attendu d'être au Kazakhstan, donc presque 6 mois plus tard, pour comprendre qu'en fait, j'étais loin. Jusqu'à présent, en fait, j'avais pas du tout cette impression-là. Et c'est le fait de m'être retrouvée en plein milieu du désert, en août, au Kazakhstan, avec vraiment rien, à perte de vue, à part des chameaux, que je me suis dit, ah ouais, quand même, là, il y a des chemins, enfin, il y a vraiment pas mal de kilomètres qui ont été parcourus. Et ça m'a fait un petit déclic, mais il a été assez long. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai continué. Pareil, Mongolie, c'est un second petit déclic, mais c'était plus la première fois où je sortais autant de ma zone de confort, au sens où on me demande souvent, tu me dis si je m'éparpille trop, hein, parce que je peux partir loin quand je raconte ce
Ah,
voyage.
vas-y, c'est très intéressant.
On me demande souvent, ouais, si je me sens seule, si c'est pas trop difficile pour moi sur la durée en fait d'être tout le temps seule. Et en fait, pendant ce voyage quotidiennement, je suis hyper entourée, que ce soit en stop, que ce soit quand je dors chez les personnes qui m'accueillent, et je me sens en fait rarement seule. Et au contraire, souvent je trouve que je suis très sollicitée. Et je suis arrivée à un stade, alors c'est très bizarre dit comme ça, je sais pas si ça va être très clair, mais je suis arrivée à un stade où en fait, maintenant, autant qu'il y a des personnes autour de moi, je me sens très entourée. Parce que, en fait, j'ai tellement foi en toutes les rencontres et à toutes les personnes qui sont autour de moi, que tant qu'il y a des personnes autour de moi, ouais, je me sens assez sereine, assez bien, assez confiante sur le fait qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à m'aider ou avec qui je vais connecter, etc. Et la Mongolie, c'était un peu différent parce que du coup, j'étais vraiment dans les steppes. Enfin, je suis vraiment pas restée sur la route. Les routes, c'est les axes principaux. Je me suis vraiment enfoncée dans les steppes et c'était la première fois où j'étais si seule et où je pouvais compter sur personne, enfin, rien que sur moi-même. Et je pense que c'est des sensations que les gens qui font des grandes randonnées sur des longs termes et un peu ouais, éloignés de tout, comprendront. Mais du coup, c'était pas la même sensation. Je me disais, ah bah là. Là, ouais, c'est sur toi que si t'arrives quelque chose, là, oui, c'est à toi qui dois gérer ça. Et donc, c'était challengeant, c'était une nouvelle sensation que j'avais pas trop explorée jusqu'à présent. Donc, voilà, Mongolie sortie de ma zone de confort. Et après, ouais, j'ai continué, bah, Chine, Pakistan, j'ai absolument adoré. J'ai rencontré que des humains formidables, hein, vraiment, c'était hyper marquant. Et voilà. Et après, je suis arrivée en Inde.
Bon, du coup, t'as un peu mordu sur ma question d'après, parce que la Juliette d'aujourd'hui, elle a bien évolué. Est-ce que
Ouais.
maintenant, t'as plus aucun doute? Est-ce que t'as plus aucune crainte? Est-ce que t'es comme l'artiste El Gato Negro que je recevais ici, qui lui dormait sur la plage avec sa guitare, qui dormait dans la rue au Brésil? Est-ce que maintenant, tu fais
Ouais.
ça? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ton organisation de voyage en un an?
Ouais. Alors, je dirais pas que je suis totalement en lâcher prise non plus, mais par contre, ouais, ça a quand même énormément changé. Ce qu'il faut savoir, tu me demandais aussi au début enfin mon expérience. Faut savoir que j'avais jamais dormi non plus seule dans une tente quand je suis partie. Enfin, je suis vraiment partie en ayant finalement expérimenté peu de choses, hein, mais en me disant que j'allais expérimenter sur la route. Et oui, au début, je me souviens, j'avais peur de dormir toute seule dans ma tente. Je vérifiais, enfin, plein de fois, je vérifiais où est-ce que j'allais la mettre. Je double-checkais que personne n'avait vu que j'allais poser ma tente et j'attendais la fin de la journée pour le faire. Et j'avais toujours aussi souvent cette appréhension si j'avais pas d'endroit où mettre ma tente qui me semblait un peu safe, je voulais trouver des couchsurfing et du coup j'avais un peu toujours cette pression de commencer la journée en me disant où est-ce que je vais la finir? Et ça a duré plusieurs mois et je pense que c'est aussi ça qui faisait que je me sentais peut-être pas forcément totalement libérée. Et au bout d'un moment, ça a disparu. J'ai commencé à avoir assez confiance finalement que en moi, peut-être, sur le fait que j'allais toujours trouver une solution et que voilà, enfin ça, donc j'ai réussi à lâcher prise. Mais je dirais peut-être pas quand même que je suis au point d'aller dormir n'importe où sur une plage, enfin sur une plage si, mais pas dans des endroits où il y a quand même trop de monde. Je sais pas, c'est une sorte d'arbitrage que je fais, je pense. Et du coup, j'ai toujours en fait des idées. Enfin, je pense que ça pousse à la créativité. Et donc je sais un peu ce qui est ok pour moi, ce qui l'est pas. Et en fonction de ça, j'ai toujours une nouvelle idée qui pop up pour trouver un endroit où je pourrais aller dormir, ce que je pourrais faire, etc. Donc sur ça, je pense que j'ai beaucoup lâché prise, mais que j'en ai encore beaucoup à apprendre et que aussi même des fois sur la route, je rencontre d'autres personnes. C'est super intéressant ça d'ailleurs. Je rencontre d'autres voyageuses, d'autres voyageurs et souvent ils ont leur mode de vie, leur façon de faire qui sont différentes. Et du coup, ça m'inspire aussi. Enfin, certaines personnes vont plus justement dormir dehors et du coup, je vais me dire, ah, peut-être qu'il faudrait que je dorme plus dehors. D'autres personnes vont plus aller. J'ai rencontré une autostoppeuse dernièrement. Elle allait beaucoup dormir dans les temples ou ce genre, et faire des volontariats. Et du coup, je me dis, ah bah c'est vrai que peut-être que faudrait que j'y pense aussi plus souvent. Donc en fait, ça se modèle au fur et à mesure, je pense. Et c'est comme s'il y avait toujours des petites portes de petites idées que j'avais pas en tête et qui s'ouvrent quotidiennement. Voilà.
C'est très intéressant. Et si tu veux des inspirations de voyageurs, il y a l'épisode avec El Gato Negro où il raconte que lui, il
Ouais.
dort, mais alors n'importe où, et qu'il a aucun
OK.
plan, et que s'il n'a pas de plan, il va dans un bar, et puis finalement, il va trouver un endroit où dormir. Mais bon, c'est peut-être pas
Ouais.
le même degré de dangerosité. Il raconte que parfois, il a pris peut-être quelques risques.
Bah.
Moi, j'ai un gros doute par rapport à ça,
Ouais.
parce que mon tour du monde démarre et je suis très gêné d'être invité chez des gens. Là, je suis chez une amie et ça me
Ouais.
gêne beaucoup de. Je vais lui faire un énorme festin quand il revient.
OK.
Toi, est-ce que tu as toujours quelque chose à manger dans ton sac ou quelque chose à boire au cas où quelqu'un t'invite chez lui et que tu sois dans la pampa où il n'y a pas de magasin pour leur amener un petit cadeau? Est-ce que tu t'arranges pour ne pas être un poids et ramener quelque chose pour partager un repas et pas juste profiter du repas de la famille? Est-ce que tu as des choses comme ça?
Ah, c'était une grosse réflexion pendant mon voyage. Je pense que ça l'est toujours, en fait, pour être tout à fait honnête. Ça dépend vraiment des situations. Je sais que déjà quand je fais du couchsurfing, pour moi, ça change un peu la dynamique au sens où je sais que les personnes se sont mises un peu d'elles-mêmes sur la plateforme et que du coup, il y a aussi cette volonté vraiment d'échange culturel qui est souvent un peu, enfin, mis en avant. Donc, dans ces cas-là, quand je fais du couchsurfing, ça va être plus spontané, ça va être en fonction de mes interactions avec des personnes. Soit je vais laisser un petit cadeau en fonction de ce qui m'a évoqué. J'aime bien essayer de fabriquer des petites choses. Si je reste plus longtemps, effectivement, du coup, je vais aller acheter des choses et cuisiner un repas. Si par contre c'est un peu de l'accueil spontané dans ces cas-là, effectivement, ça change la dynamique parce que c'est des personnes qui t'arrivent plus dans leur quotidien. Et dans ces cas-là, ça dépend vraiment. Il y a des moments où j'avais la possibilité, du coup, j'allais faire une soirée crêpes. J'aime beaucoup faire des crêpes. C'est des ingrédients assez faciles à trouver. Et du coup, je me suis retrouvée dans des situations assez cocasses à faire des crêpes. Dernièrement, c'était sur une poêle à rôti. C'est tu sais, les petites chapatis là qu'on fait en Inde et au Népal, un peu comme les naans. Et donc, c'est des poêles très, très épaisses et il n'y a même pas de manche pour le faire. C'est vraiment une plaque, quoi. Donc, je me suis retrouvée avec la plaque en train d'essayer de tourner dans tous les sens. Toute la famille était pliée en deux parce que vraiment, c'était laborieux. Et avec le lait du buffalo du voisin. Mais voilà, c'est à chaque fois, ça dépend vraiment des rencontres et du temps que j'y reste. J'aime bien avoir avec moi, j'ai un petit sac avec des petits cadeaux que j'aime bien avoir comme ça. Si j'ai pas de nourriture, j'essaie de toujours laisser un petit quelque chose. Mais ça varie vraiment. J'ai pas un procédé pour toutes les familles. Sachant que oui, il y en a certaines où j'arrive le soir. Tu vois, c'est une rencontre d'une soirée. Et dans ces cas-là, j'ai pas toujours l'occasion de cuisiner. Donc, ça varie beaucoup.
Je vais semer une petite graine qui me fait réfléchir depuis quelques semaines. Parce que je trouve que nous, moi et puis toi et beaucoup de personnes sur Instagram ou sur YouTube, on pousse au voyage et on est là, oui, regardez comment c'est facile de voyager. Par exemple, moi, l'activité du moment, c'est d'expliquer comment trouver un bateau pour traverser l'Atlantique. Toi, tu montres que l'hospitalité à l'étranger est exceptionnelle. Il y en a plein qui, par exemple, Alex Viséo a un podcast qui a pour but de pousser les gens à voyager. Est-ce que notre rôle, ce serait pas, une fois qu'on revient en Europe, de pas pousser à voyager, mais de pousser à accueillir? Parce que tu le dis souvent sur les réseaux, il y a une inégalité de visa qui est énorme. Et un Pakistanais, quand tu arrives au Pakistan, bah, tu es super bien accueilli. Mais alors, un Pakistanais qui arrive en France, bah, il va pas être super bien accueilli. Donc, je me disais, est-ce que notre rôle, ce serait pas aussi de pousser à accueillir, de pousser à se créer un compte Couchsurfing? Est-ce que toi, quand tu vas revenir en France, j'imagine que tu vas pas revenir dans une grande entreprise. Est-ce que tu penses te mettre dans l'accueil des gens, ou est-ce que tu as des projets du retour en France, ou en tout cas, tu sais qu'un jour ou l'autre, tu vas travailler dans un certain domaine?
Alors, c'est une bonne question, ça le soulève plein de points. Pour le coup, oui. Donc mon retour en France, ça me paraît assez lointain, mais oui,
Oui.
c'est quelque chose, c'est sûr que j'ai envie de rendre là pareil et d'accueillir quand je reviens. Mais c'est quelque chose qui me dérange aussi toujours un petit peu, je crois. J'ai l'impression que justement, quand j'entends beaucoup d'autres voyageurs et voyageuses, et puis même moi la première, c'était un peu mon discours en partant, je me disais, on a tellement été généreux avec moi que j'ai envie d'être pareil une fois que je vais rentrer en France. Et juste, je pense que ça a aussi ses limites, au sens où, en fait, une fois que tu rentres en France, j'ai l'impression que c'est rendre la générosité en France. Et en fait, beaucoup de personnes qui m'accueillent dans tous les pays dans lesquels je vais là auront probablement jamais la possibilité de venir en France, en fait. Et du coup, c'est quelque chose d'important pour moi d'essayer de le faire aussi pendant mon voyage. Ça soulève beaucoup de questionnements, hein, forcément, mais justement, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup aller à la rencontre de militants et militantes dans les pays, et d'avoir leur avis sur justement comment moi je peux les aider en étant là, et enfin du coup avoir leur avis sur qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Et c'était le cas, j'avais un échange avec une activiste très très engagée au Pakistan, et qui me disait, mais en fait, vous, par exemple, en Occident, vous diffusez très peu. Enfin, nous, on va diffuser beaucoup tous vos sujets problématiques, vos enjeux, etc. On les relaie beaucoup. Et finalement, vous relayez peu tous nos sujets aussi. Enfin, voilà. Et nous, on aimerait bien ça, en fait, avoir de la visibilité, ça nous aiderait déjà beaucoup. Et bref, ouvrir ces sujets-là, ces échanges-là, et ça me permet aussi, en étant dans le pays, d'avoir l'impression aussi de pouvoir agir un petit peu et pas seulement du coup me dire, bon, quand je reviendrai, je ferai quelque chose. J'ai envie de le construire au fur et à mesure aussi de mon voyage, et donc quand je reviendrai, ça sera un plus, et ça sera quelque chose que j'aurai envie de, je pense que ça sera aussi, tu vois, ça sera devenu un quotidien. Donc pour moi, c'est hyper normal, de j'aimerais trop avoir un lieu, et justement que plein de personnes puissent venir, et voilà, créer quelque chose, une dynamique d'accueil, et qui soit un peu, justement, qui reflète un peu tout ce que je vois là, et tout ce que je vis là, et tout ce que j'apprends aussi des gens. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de bloquer dans le retour, et j'ai envie que ce soit quelque chose qui se crée aussi pendant mon voyage. Et que, en gros, si je reviens en France, que ce soit dans la continuité, et que ce soit pas une nouvelle Juliette qui crée un nouveau projet.
Ouais, bah, c'est une très bonne réponse. T'as raison. Et t'as fait quoi, concrètement? T'as été voir combien d'ONG, d'ailleurs, au total?
En fait, du coup, j'ai pas été voir tant que ça d'ONG à proprement parler. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'aller rencontrer justement des personnes qui cherchent à protéger la nature, l'environnement, qui sont militants, soit qui, dans leur mode de vie, ont fait des choix de vie alternatifs. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont pas forcément dans des organismes. Et j'en ai rencontré... j'ai été dans 18 pays jusqu'à présent. Donc, je pense que j'en ai à peu près rencontré 18 personnes. Pas forcément une personne dans chaque pays, mais dans certains pays, j'ai rencontré 3-4 groupes ou personnes différentes. Et dans certains pays, j'ai pas pu en rencontrer, en Géorgie par exemple, Kazakhstan et Ouzbékistan. Mais ouais, en tout, je pense que du coup, ça doit faire environ, on tourne autour de 18.
Alors, l'objectif pour l'instant de ton voyage, de ce que j'ai compris, c'est l'Australie où tu envisages peut-être un PVT, mais à un moment donné, il faudra traverser le Pacifique. Et moi qui hésitais à faire un tour du monde dans ton sens ou dans mon sens, c'est-à-dire en partant à l'ouest, j'ai réalisé que le Pacifique, ça allait pas être une tâche facile, surtout en voilier si on veut pas consommer beaucoup de carbone. Comment t'imagines ce passage-là?
En fait, moi, c'est un petit peu particulier hein, pour te dire. Mon projet, c'est en fait, ça s'est pas construit en me disant je veux faire le tour du monde en stop. Tout est parti du fait que de base, j'avais envie depuis toute petite. Je n'ai vraiment aucune excuse. Je sais pas du tout pourquoi. J'avais envie d'aller en Australie et je m'étais dit bon bah quand je finirai mes études, j'irai faire un permis de vacances-travail en Australie. J'aimerais bien faire des petits jobs. Enfin, voilà, c'était une idée que j'avais en tête. Bon, finalement. Le fait est que je me suis dit qu'en sortant d'études que je ne pouvais pas partir faire ça et qu'il fallait absolument que je rentre dans des normes sociétales un peu différentes. Et bon, j'ai pas osé me lancer pour partir en PVT en Australie, mais ça me restait en tête. Et à un moment, je me suis dit que j'allais démissionner et que j'allais partir quand même coûte que coûte en Australie. Sauf que j'avais décidé depuis déjà, je pense, à ce moment-là, 1 an et demi, voire 2 ans que je prenais plus l'avion parce que je l'avais déjà trop pris. En tant que qu'individu, et donc j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais y aller sans avion. J'avais envisagé le train, mais c'était pas possible. Et donc j'ai décidé de me lancer en stop. Et en fait, après réflexion, je me suis dit ben en fait une fois que je serai en fait une fois que je, de toute manière j'allais être en Australie, comment j'allais rentrer. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est construit. Je me suis dit bon bah je serai en Australie, donc en fait je vais partir sur un tour du monde. J'ai plein de curiosités pour plein d'endroits dans le monde, donc en fait, et puis comme je vais voyager moins loin vu que je veux plus prendre l'avion, bah là c'est un temps que je vais m'accorder dans ma vie, un des rares temps où j'aurai du temps long, donc autant en profiter. Donc voilà, ça s'est construit comme ça. L'ironie en fait de la chose, c'est que en fait aujourd'hui l'Australie c'est plus du tout spécialement un point d'intérêt. En fait, c'est vraiment devenu, bah, comme je te disais, vraiment plus le quotidien et l'aventure que je vis au quotidien et tous les projets qui en émergent, toutes les personnes un peu engagées dans les différents pays que j'ai envie de rencontrer. Mais voilà. Donc, l'ironie, c'est que l'Australie, c'est plus trop mon focus. Mais effectivement, ça va être, j'étais consciente en partant et en allant de ce sens-là que ça serait, pas facile et que je prenais pas la décision la plus facile en allant à contre-vent. Et effectivement, je risque de galérer à trouver un bateau. Et je n'ai rien à te dire pour te contredire, à part que je vais apprendre de ma patience d'autostoppeuse et essayer de ruser à tout prix pour trouver un bateau. Et puis, on verra ce qui se passe. Mais j'ai absolument pas de réponse toute faite pour cette question. Ce qui me fait penser que qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai pas de limite de temps. Voilà, j'ai appris à être patiente et du coup, j'espère que ma patience me permettra de de traverser l'océan.
Il y a beaucoup de cargo, voilier, ça peut être compliqué, mais il y a beaucoup de cargo. Et pour quelqu'un qui a rejoint l'Inde, puis le Népal, puis l'Inde, puis le Népal en stop, plus rien ne fait peur.
Affaire à suivre, hein. Franchement, on verra si je fais la maline. Je serai patiente et puis ça me fera du bien aussi d'être un peu plus longtemps en Australie. C'est ce que je m'étais dit aussi. Je m'étais dit, au moins, le fait de devoir chercher, même pendant longtemps, un bateau, ça m'oblige aussi à rester un peu plus fixe à un endroit. Et sur un voyage aussi long, c'est bien aussi, je pense que c'est à pas sous-estimer de rester sur des temps longs à certains endroits. Donc voilà, c'est l'Australie qui s'impose un peu. Et je me dis que c'est bien.
Je pense que c'est très faisable. Bon, je suivrai ça alors. Je le disais dans mon introduction, quand je suis revenu en France après 3 ans d'Afrique, on m'a parlé de toi à Paris, à La Rochelle, à la pharmacie d'Angers. T'es une superstar, t'as autant de followers que Clément Viktorovitch, que j'aime beaucoup et qui est une superstar. Voilà, petite stat. Est-ce que c'est bien d'être connu? Est-ce que t'as pas une pression ou une charge mentale en plus? Je posais la même question à Lucas Venner, qui lui publie des vidéos régulièrement, et je lui demandais est-ce que ça prend pas trop de temps sur ton voyage, du temps qui est en quelque sorte perdu parce que t'es sur ton téléphone. Même question, comment tu le ressens?
J'ai pas de réponse policée pour ta question. J'ai un rapport. On va dire une toxique relationship avec les réseaux sociaux. j'ai, en fait, je pense que ça a ma peur, mais je suis constamment en réflexion sur, bah, en fait, j'ai très conscience de toutes les dérives et j'ai toujours peur, justement, des dérives potentielles. Donc, pour tout dire, j'avais pas du tout prévu, quand j'ai prévu ce tour du monde à pied en stop d'intégrer les réseaux sociaux. Enfin, j'avais prévu de partager avec mes proches. J'avais fait, des petites vidéos parce que ça me plaisait. Enfin, j'ai toujours adoré faire des vidéos, donc je pensais le partager un petit peu comme ça, mais comme je l'ai toujours fait, j'avais pas prévu du tout qu'il y ait autant de visibilité dessus, pour tout te dire. Et ça a été assez stressant au début pour moi, notamment en fait au départ, donc en février quand je suis partie, c'est là qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'engouement, beaucoup de visibilité, et en fait moi j'étais perdue, hein. J'étais sous une montagne de messages, j'étais pas du tout prête, enfin je me sentais pas du tout prête non plus au départ parce que j'avais trop de choses à programmer. Bref, c'était un peu stressant effectivement pour le début. Mes proches pourront en témoigner. Et au fur et à mesure, je pense que ouais, enfin j'y réfléchis souvent, et je pense que j'ai appris aussi à l'utiliser quand j'en avais envie. Donc il y a des moments où je pense que je suis une très mauvaise personne. En suivant les recommandations Instagram, je suis une très mauvaise personne parce que je publie vraiment en fait quand j'ai envie, quand je suis motivée, quand je suis dans l'humeur à le faire. Mais effectivement, il y a des moments où je sens que ça prend trop de place. J'ai trop d'idées dans ma tête, j'ai trop de choses que j'ai envie de partager et en fait c'est juste pas possible parce que ma journée en fait j'ai que 24 heures et qu'en fait on s'en rend pas toujours compte. En fait, je sais que mon entourage des fois ils ont un peu l'impression que je suis en vacances. Mais en fait, c'est pas des vacances. Le fait de toujours, chercher un endroit où dormir, rencontrer des nouvelles personnes, d'être tout le temps dans les interactions. Finalement, je suis souvent très sollicitée. Et du coup, des fois, les réseaux sociaux, en fait, c'est une sollicitation virtuelle, certes, mais une sollicitation de plus. Et des fois, c'est une sollicitation de trop. Donc, dans ces moments-là, je prends la distance avec. Et il y a des moments où, au contraire, je suis hyper contente d'avoir les réseaux sociaux. Pour une raison qui m'est assez propre, mais c'est que en fait quand je partage des choses en story ou même que je fais des posts, etc., le fait qu'il y ait autant de personnes qui voient ce que je publie, ça m'oblige et ça me pousse à vérifier beaucoup plus mes sources, à vérifier beaucoup plus. Enfin, je me suis retrouvée à lire des rapports, à checker, à lire plein de choses. Et en fait, ça pour le coup, je pense que ça m'a beaucoup aidée dans ma à intellectualiser un petit peu tout ce que je vis pendant ce voyage, à réfléchir justement à les relations qui se passent dans l'autostop, les personnes qui me prennent en autostop, ma relation au voyage en tant que femme. Enfin, il y a plein de questions que je me posais et qu'en fait du coup j'avais pas envie d'aborder de manière trop légère. J'avais envie de pousser un peu, d'approfondir ma pensée avant de t'en parler sur les réseaux sociaux, et du coup je suis contente parce que ça, pour le coup, ça m'a poussée, à vraiment plus aller loin. Je sais pas si c'est clair, mais à réfléchir plus loin sur ce que je vis avant, et le fait qu'il y ait toutes ces personnes qui puissent aussi, tu vois, partager ça avec moi, bah du coup, ça m'a poussée à réfléchir plus. Donc ça aussi, je suis contente. Donc voilà, il y a des moments où c'est un peu un poids, il y a des moments où, au contraire, je trouve que ça me pousse à aller plus loin dans des réflexions. Et ça, j'en suis contente. Et aussi, j'ai rencontré plein de personnes hyper intéressantes qui voyagent, avec ou sans avion, mais beaucoup de personnes qui voyagent ou qui réfléchissent sur le bas carbone, etc. Et ça, ouais, c'est des liens hyper chouettes et où tu te rends compte qu'en fait, on est plein à avoir envie de changer les choses, à avoir envie de voyager différemment. Et c'est chouette de se rendre compte que parfois, en fait, tu te sens un petit peu isolé, un petit peu comme une alien, en mode bon, moi je fais ce projet sans avion, peut-être que ça fait pas sens, et en fait tu te rends compte que ça concerne beaucoup beaucoup de gens et que beaucoup de personnes ont envie de se lancer, et ouais, ça fait chaud au cœur de voir ces messages, d'avoir ces échanges.
En tout cas, tu inspires du monde, et tu disais que parfois il y a dans des pays, on te parle de donner de la visibilité à ces pays, à ces projets, au moins ça permet d'en donner, et je pense que c'est assez efficace. Et tu t'as beaucoup dit la phrase « j'ai beaucoup réfléchi à ça » ou « j'y ai pensé » et je sais que tu réfléchis beaucoup aux choses. Tu sors d'une retraite spirituelle, je ne sais pas si c'est le mot, mais une retraite silencieuse.
Oui, Vipassana, ouais.
C'était une usine dans ton cerveau pendant 10 jours ou ça s'est passé comment?
Oh là là, oui. alors ça, c'est un con, c'est que moi, en fait, bon, du coup, toi, tu vois comme ça, mais moi, j'étais persuadée d'être capable de mettre en off mon cerveau assez rapidement, assez facilement. Et alors, cette vipassana m'a fait me rendre compte qu'en fait, oui, j'ai toujours plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de mettre en place. Et puis surtout, je pense que ce voyage aussi y est pour beaucoup de choses, mais je découvre tellement de choses quotidiennement qu'en fait, j'ai trop de choses que j'ai envie de partager, de montrer. Moi aussi, j'ai envie d'approfondir. Chaque pays, en fait, toute l'histoire me passionne. Les échanges avec les personnes me donnent envie d'approfondir sur de nouveaux sujets. Et j'ai envie de, ouais, de. Après, je me dis, bon, il faut absolument que je parle de ce sujet parce que c'est absolument dingue. Et bon, du coup, j'ai le cerveau qui va à toute allure. Et donc, la vipassana, c'était très drôle d'ailleurs. Pour la petite anecdote, parce que on m'avait dit, tu verras, la vipassana, les 3 premiers jours, ton cerveau va être en non-stop et tu vas pas arrêter de parler, de penser, parce que tu ne peux pas parler. Et ensuite, ça va être insupportable parce que tu ne sauras plus quoi faire. Donc moi, je m'étais préparée mentalement à ce que ce soit le cas, et pas du tout. Moi, ça a fait l'opposé, c'est-à-dire que les 3 premiers jours, j'étais vraiment intriguée par tout ce qui se passait, j'essayais de comprendre un peu le fonctionnement de la vipassana, le fait de ne pas parler, le fait d'aller aux séances de méditation, les heures de repas. Bon, j'étais hyper focus sur l'organisation. Et moi, ça a été après les 3 premiers jours. Donc, le 4e jour, mon cerveau s'est dit, ah, bah là, c'est bon. T'as pris tes aises, tes marques. Et alors là, ça a été le moment où, par contre, j'avais plein, plein de pensées qui s'arrêtaient plus. Donc voilà.
Tu les écrivais, il y a des choses qui ont changé, genre tu t'es dit ça je ferai plus ou ça je ferai ou faut vraiment que je me lance là-dedans, ce genre de choses.
Malheureusement pendant la vipassana, tu ne peux absolument pas, t'as pas le droit d'écrire. T'as pas le droit de lire, t'as pas le droit d'écrire, voilà. Donc pendant la vipassana, j'ai pas écrit et sinon par contre au quotidien, oui, j'essaie d'écrire, j'aime bien écrire, c'est des fois je me rends même pas compte en fait de tout ce que je vis, parce que c'est si différent tous les jours que c'est difficile, en fait, d'avoir l'espace et le temps d'assimiler tout. Et du coup, écrire, ça me permet justement de prendre du recul. Et parfois, en écrivant, je me rends compte de la façon dont j'ai vécu des événements. Et c'est hyper intéressant, même pour moi. Je découvre des choses sur moi-même. Donc, j'essaie de prendre ce temps-là. Pour le coup, j'avais beaucoup cette habitude pendant les 6 premiers mois de mon voyage, je pense que j'écrivais toujours. Là, malheureusement, c'est un réflexe que j'ai un peu perdu. J'écris de temps en temps. J'aime bien avoir des temps longs pour écrire. Par contre, j'ai plus du tout le réflexe d'écrire quotidiennement. Mais j'adore écrire. Voilà.
Et il y a un livre qui est en cours ou quelque chose comme ça?
C'est un petit projet, effectivement.
Faut pas oui. En parler.
Je peux pas dire beaucoup plus de choses, mais oui, il y a un projet de livre qui est en cours et ça aussi, ça me pousse à chercher plein de choses, à réfléchir à plein de sujets. Ben, du coup, tu t'imagines bien que mon esprit va dans tous les sens. Mais je suis super contente. C'était une grosse réflexion, ça. J'ai hésité pendant longtemps. On m'avait proposé plusieurs fois d'écrire des livres, etc. Et j'avais hésité. J'avais même dit non à certaines personnes pour me lancer parce que je me disais que peut-être que ça serait plus pertinent de faire un livre à mon retour. Et en fait, j'adore le fait d'avoir un projet sur la route, de me poser de temps en temps, c'est ce que je te disais, me poser quelques jours, voire une semaine à un endroit pour avoir du temps pour écrire. Je pense que c'est un rythme qui me va bien. Donc, je pense que c'est hyper propre à chacun et que, voilà, on a tous besoin un peu de nos temps longs, de choses comme ça. Et moi, le fait qu'il y ait ce projet d'écriture, ça me pousse à avoir un petit moment pendant mon périple où je me dis, alors là, je me mets dans cet endroit, dans ma petite bulle, et je passe du temps à écrire un peu plus dans ma petite tête en introspection. Et j'aime bien ça, ouais.
J'en connais une qui doit avoir du mal à s'endormir le soir avec toutes ces idées qui fusent.
figure-toi que non. Alors ça, tous mes proches sont toujours impressionnés. Je me couche et je m'endors immédiatement. Et c'est vraiment un gros atout, je pense, dans cette vie-là. Parce que vraiment, je peux m'endormir partout. Quand j'ai décidé de dormir, je m'endors partout et ouais, c'est un gros avantage parce que je dors un peu dans tout type d'endroits, des grottes, les tables de pique-nique, enfin vraiment tout type d'endroits. Ouais.
C'est pratique. Page sécurité, alors je sais que tu n'aimes pas, mais peut-être que maintenant tu aimes, encore une fois, je ne sais plus, cette question. On associe le voyage sola à la sécurité, mais du coup je vais prendre le contre-pied au cas où tu aimes ou tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu dis aux femmes qui veulent voyager en solitaire et d'un coup, on les assomme d'inquiétude. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes sur le voyage et sur la sécurité?
En fait, mon propos, il n'est pas tant sur le fait d'avoir des peurs en tant que femme. Pour moi, c'est hyper légitime d'en avoir. Mais mon propos, c'est plutôt de dire à ces femmes qui ont peur de partir que justement, enfin, de savoir d'où viennent leurs peurs. Pour moi, c'est hyper naturel d'avoir peur et c'est presque chouette si tu peux l'identifier, si tu te rends compte que t'as peur, mais tu vois que ça peut faire un petit boost d'adrénaline. Ça te permet aussi de rester assez alerte sur tes sensations, sur ce que tu penses, sur les situations, etc. Donc pour moi, la peur, c'est vraiment pas le souci. Mais pour moi, le souci, c'est en fait justement les peurs qui sont transmises par l'extérieur. Il y en a énormément qui viennent de notre entourage et qu'en fait, on finit par porter comme si c'était les nôtres. Et pour moi, c'est ça le souci. C'est quand c'est plus ta propre peur, mais celle des autres que tu commences à porter. Voilà. Du coup, mon conseil, ça serait vraiment juste d'essayer de prendre de la distance par rapport à toutes les peurs et toutes les idées, en fait, un peu reçues qu'on va nous mettre dessus, qui, je pense, peuvent être vraiment un gros frein. En fait, il y a beaucoup d'a priori et bon, si j'avais un conseil, en fait, mon plus gros conseil, ça serait de se rapprocher de personnes qui l'ont vraiment fait. Moi, je sais que ça a été un énorme tremplin et ça m'a énormément aidée au moment où je voulais me lancer. Tout le monde me disait, en fait, t'es une femme seule qui peut partir en stop autour du monde. Enfin, Juliette, c'est totalement inconscient. Et en fait, le fait d'avoir parlé à Florence du Monde sur le Pouce, à Astrid d'Histoire de Tongue, par exemple, en fait, c'était deux femmes qui avaient voyagé seules en stop, notamment dans plein de pays, et en fait le fait de lire leurs témoignages, de discuter avec elles, ça m'a beaucoup rassurée. Et je pense que c'est ça en fait le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de parler à des personnes qui ont fait l'expérience et pas de se fier à des personnes qui ont des a priori sur les choses ou qui pensent savoir. Mais voilà, du coup de se rapprocher de personnes qui ont des profils un peu similaires, des vécus un peu similaires aux nôtres, et de demander leur retour d'expérience à eux. Et dans ces cas-là, c'est plus facile de jauger le réel danger et ce qui vient plutôt des imaginaires collectifs, quoi.
Bon, c'est là la raison d'être de Papa, Maman, Tout va bien, d'interviewer des personnes qui ont voyagé ou qui ont vécu à l'étranger.
C'est ça.
Et qui, ces personnes savent.
Ouais.
Tu nous diras dans quelques instants si Papa, Maman, Tout va bien, mais j'aimerais bien finir sur une note caramel au beurre salé. Est-ce que tu as des petits moments sucrés, des petits moments qui resteront à jamais dans ta mémoire? Bon, j'imagine que tu vas me dire que tu en as plein, mais du coup, dis-moi les derniers ou des moments où tu as su que tu avais fait le bon choix de partir il y a un an et quelques semaines.
J'en ai vraiment énormément, comme tu dis, donc c'est toujours un peu difficile, mais il y a deux moments que je pourrais appeler des petits moments sucrés qui correspondent bien, je pense. Il y a un moment, c'était en Turquie, c'était un soir où justement j'avais fait beaucoup de stops. J'enchaînais beaucoup de stops depuis plusieurs jours, j'étais particulièrement fatiguée. Et en fait, j'ai fini par installer ma tente, mais un peu en dépit, après une journée vraiment fatigante sur une plage. Et je sais pas pourquoi, j'étais un peu inquiète ce soir-là de cette plage, cet endroit. J'étais vraiment isolée de tout. Enfin voilà. Donc j'ai posé ma tente. J'ai dormi, un sommeil entre deux cette nuit-là. Rare fois, parce que normalement je dors très bien. Et le lendemain, je me promène sur cette plage. Et en fait, il y avait vraiment rien, sauf une cabane un peu, qui me semblait un peu délabrée. Je sais pas pourquoi, c'est un détail qui m'a beaucoup marqué, qu'il y avait des corps de Barbie accrochés à la cabane. Et du coup, je me suis dit, oh là là, qui est cette personne-là qui met des corps de Barbie nus sur sa cabane? Enfin, bref, les a priori de Juju. Et voilà. Et en fait, quelques secondes plus tard, je finis par rencontrer un petit pêcheur qui arrive tout content. Je me souviens encore de sa démarche. Il courait sur la plage, etc. Il vient à ma rencontre. Et on discute un petit peu, mais enfin, il y avait quand même la barrière de la langue, puisqu'il me parlait turc. Et bon, je comprends que c'est un ancien capitaine et qu'en fait, il a décidé de plus vivre d'être capitaine, ni de vivre dans son village, mais de construire cette cabane et de vivre sur la plage. Et en fait, cette rencontre, elle a été assez lunaire parce qu'en fait, j'ai pas su grand chose de lui de plus, à part qu'on l'appelait sœur capitaine. Et en fait, à partir de ce moment-là, il m'a dit « Assieds-toi, assieds-toi ». Et je me suis retrouvée sur une petite planche de bois dans sa cabane. Il m'a dit « Attends, attends, je vais te préparer un petit repas ». Et en fait, c'était assez bizarre, c'est-à-dire qu'il est parti, j'ai même pas eu le temps de lui dire que j'étais végétarienne, qu'il est parti, il a couru dans l'eau et il a sorti son tuba et je le voyais juste flotter à la surface de l'eau en train d'essayer de me trouver un poisson. Et je me disais, cette situation n'a aucun sens, mais ça me faisait énormément rire. Et en fait, bon, il a heureusement pour moi pas trouvé de poisson, mais il est revenu et on a passé, je pense, 3 jours ensemble où il me trimbalait dans sa petite voiture, toute cabossée, pareil, les pare se formaient pas, et voilà, et on allait faire des petits tours aux alentours. Je sais même pas ce qu'on faisait, mais en fait, le temps est passé hyper vite. Et je m'étais dit, c'est dingue d'être inclus dans le quotidien de quelqu'un comme ça qui me pose pas du tout de questions sur d'où je sors. D'habitude, il y a une curiosité énorme sur qu'est-ce que je fais, d'où je sors, enfin voilà. Là, il m'a vu débarquer avec mon énorme backpack sur sa plage, perdue au milieu de nulle part. Et en fait, il l'a même pas cherché à savoir et ça s'est juste fait comme ça. Tous les jours, il me disait, allez, tu restes encore un peu plus. Le troisième jour, quand je lui ai dit, bon, que j'allais reprendre la route, on était presque tristes tous les deux. Et ouais, c'est vrai, c'était un petit moment sucré, assez marquant, ouais.
Génial, la beauté du voyage.
Ouais, ces rencontres comme ça, assez anodines, tu vois, finalement, qui pourtant restent hyper marquantes, ouais, et des liens qui assez aussi différents de ce que ordinairement on a l'habitude aussi de valoriser. Je sais que moi, je valorise beaucoup les super conversations, des conversations qui vont me retourner la tête et où je vais en sortir hyper contente. Mais là, du coup, c'était pas ce genre de lien-là. C'était juste un lien hyper naturel entre deux personnes qui se créaient. Et je trouvais ça hyper cool aussi.
T'arrives à garder des liens avec toutes les personnes qui t'ont accueilli, parce que j'imagine qu'il t'a donné ton numéro à plein de monde et ils doivent t'envoyer des ouais. messages en disant hey, how are you? Et ça devient compliqué de répondre à 500 personnes.
C'est pas évident du tout, sachant que en plus c'est pas que les personnes qui m'accueillent, mais il y a aussi toutes les personnes qui me prennent en stop, qui prennent mon numéro.
Ouais.
Mon numéro WhatsApp est assez saturé pour tout te dire. Ça dépend. Non, je garde contact avec certaines personnes, pas avec tout le monde. Voilà, il y a des fois où ça s'estompe assez naturellement. Il y a des fois où, tu vois, on va pas se parler pendant hyper longtemps et en fait, je vais penser à quelque chose et puis du coup, je vais renvoyer une petite photo ou inversement. Mais j'aime bien ça aussi. C'était une réflexion que j'avais aussi. J'aime bien. Je pense qu'on a tendance à toujours vouloir des liens qui durent dans le temps et des liens. Des fois, j'ai l'impression aussi que c'est un peu le type de lien qu'on valorise. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas parce qu'une relation dure dans le temps qu'elle avait plus de valeur qu'une relation qui avait duré un instant présent, mais qui a pu t'apporter énormément ou qui a pu apporter à l'autre personne énormément aussi. Et du coup, j'aime bien voir un peu différemment maintenant là, aussi mes formes de relations et me rendre compte qu'en fait, il y en a pas une qui a plus de valeur que l'autre et que certaines rencontres, ouais, qui ont duré vraiment très peu de jours, finalement, je sais qu'elles auront un impact hyper important dans ma vie, tout autant que des personnes qui ont été hyper présentes sur la longue durée, mais c'était pas la même sorte de lien non plus, tu vois. Donc, voilà, j'ai un peu revisité ça, toutes les formes de liens. Et il y a certaines personnes avec qui je garde contact, certaines personnes avec qui je garde pas contact. C'est ça que j'aime bien aussi, tu vois. Maintenant, quand je pars, c'est pas des revoirs poignants, c'est à bientôt sur la route, on se recroisera peut-être, peut-être pas, et puis c'est la vie, et c'est très bien comme ça.
Encore une super réponse de Juliette, qui réfléchit beaucoup. Dis-moi, Juliette, est-ce que lors d'un tour du monde en stop, en solitaire, papa-maman, tout va bien?
Ah bah, papa-maman, tout va super bien.
Kenavo,
Juliette.
Je suis
super contente, oui. Kenavo. Merci, Béranger.
C'était un super épisode, non? Déjà, rencontrer Juliette un peu plus que des stories ou des vidéos. Et surtout, Juliette, la moitié de son temps, elle fait du stop et l'autre moitié de son temps, elle réfléchit, j'ai l'impression. Parce que c'était super cool d'avoir ses retours sur les questions que je me pose, donc moi qui suis aussi en voyage. Et elle a vraiment des réponses de la doyenne qui voyage depuis des mois et des mois. Et j'ai trouvé qu'elle a eu des réponses super inspirantes qui, déjà, donnent envie de voyager. Pour un peu tout le monde, je pense, et puis qui aide un petit peu sur comment organiser son voyage et puis comment se lancer, en fait, se lancer en sachant que les réponses vont venir au fur et à mesure du voyage et qu'au début, on a des inquiétudes, au début, on a des questionnements et qu'au bout d'un moment, ça passe et on finit par soit se faire une raison, soit trouver des solutions et puis s'habituer à mettre sa tente toute seule dans la montagne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et s'il vous plaît, si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcasts, mettez des petites étoiles et un petit commentaire. Parce que j'ai des milliers d'écoutes et personne ne met de commentaires ou d'étoiles. Donc si vous pouviez faire ça, ce serait vraiment super chouette. Ça m'aiderait à continuer. Parce que la semaine prochaine, on part en Martinique. Et la semaine d'après, je sais pas encore. Donc si vous mettez des petites étoiles ou des petits commentaires, ça m'aiderait à avoir plus de visibilité et continuer ces podcasts avec d'autres personnes encore plus inspirantes ou tout autant inspirantes que Juliette. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.